Je vous invite à voyager avec moi ce matin, puisqu'on va continuer à parler de ce psaume 23, et on va le relire en entier. Je sais qu'on le connaît par cœur normalement. Et on va aller dans les montagnes aujourd'hui, la transhumance. Hein. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La semaine dernière, on avait parlé de la première période que les brebis allaient connaître, de retour justement de la montagne. Et pendant cette période, le berger va s'occuper des brebis, va les soigner, va les cajoler, va leur parler, va leur faire du bien. Et dans cette deuxième partie de ce psaume, les versets 3 à 6, c'est plutôt cette période de transhumance. Où on voit le berger qui part avec ses brebis dans les montagnes, se balader. Et c'est aussi un grand moment d'intimité, parce qu'ils vont se retrouver face aux dangers, face aux difficultés, avec le berger. Et forcément, elles vont compter sur le berger dans ces situations un peu difficiles. Première chose qu'on peut dire, et je vais relire, mais comme je l'avais traduit depuis l'hébreu, mais en littéral, « Aussi lorsque j'ai marché dans une vallée profonde d'obscurité. » C'est comme ça en hébreu, en sachant de la vallée de l'ombre de la mort. Marcher. Il faut marcher. Parce que les brebis, elles ne peuvent pas aller dans les pâturages si elles ne marchent pas. Et monter, je ne sais pas si vous avez déjà grimpé dans les montagnes, ce n'est pas toujours évident. Bon, après, c'est des brebis. Mais c'est parti pour le grand voyage. Et j'essaie de que vous imaginiez un peu que vous êtes là dans les Alpes, avec les oiseaux qui chantent. Essayez d'imaginer un peu que vous êtes en balade ce matin, pour qu'on puisse savoir un peu le cadre de ce psaume 23, tout simplement. Et on va marcher après les soins, après que le berger ait pris vraiment soin, s'est occupé de ses brebis. Elles sont en pleine forme maintenant et elles peuvent partir pour marcher. Et les pâturages les attendent, les meilleurs pâturages, parce que le berger va leur proposer ce qu'il y a de meilleur, évidemment. Ces pâturages vont être pleins d'eau, de la bonne eau bien fraîche, des belles rivières et une bonne nourriture bien riche. C'est ce qu'il y a dans les montagnes, généralement. Mais elles doivent marcher, je l'ai dit, et ça, c'est indispensable pour avancer. C'est un peu pareil pour le croyant. Il a besoin de marcher. Et on trouve plusieurs versets, par exemple, dans Galates 5, 16, où il est dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » En Éphésiens chapitre 2, il dit « Et marchez dans la charité. » Encore une marche. Éphésiens 5, 8, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Colossiens 2, 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. En fait, un chrétien marche tout le temps. Je suis désolé de vous le dire. On se repose de temps en temps. Mais l'idée, c'est quand même d'avancer vers l'avant. Et cette marche, ce n'est pas moi qui le demande, c'est le Seigneur lui-même qui demande que l'on progresse, que l'on avance avec lui, tout simplement. Parce que c'est indispensable, parce que si on veut aller un peu plus loin avec le Seigneur, évidemment, il faut avancer avec lui. Vous savez, les belles vallées, là où justement il y a les bons pâturages, il faut les trouver. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il faut marcher. Beaucoup marcher, des fois, traverser des vallées, on va voir tout à l'heure, même parfois difficiles, mais c'est comme cela qu'on trouve, enfin, ces bons pâturages. Et le chrétien, de la même manière, marche pour trouver les bons pâturages et tout simplement la présence de Dieu et son amour pour nous. Mais le psalmiste dit « marcher dans la vallée de l'ombre de la mort ». Ça, déjà, on aime moins. On aime bien se balader, les excursions, vous aimez, j'imagine. Mais quand il faut traverser la vallée de l'ombre de la mort, alors là, c'est déjà moins drôle. Le mot « ombre de la mort » en hébreu, on peut le traduire « ombre de la mort ». Un autre le traduirait par « profonde obscurité ». Ce n'est pas forcément la mort. Un autre parle de « ombre de la mort » aussi. Donc, ce n'est pas forcément la mort elle-même, mais c'est des moments d'obscurité, de difficulté. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les Alpes avec un orage. C'est impressionnant. Là, nos orages, ils nous font peur, mais alors dans les Alpes, ça tonne comme ce n'est pas possible. Et j'imagine que ces pauvres petites brebis, elles devaient avoir peur, comme moi j'avais peur à l'époque, quand j'étais jeune aussi. Mais la vallée d'ombre de la mort, c'est tout simplement des mauvais moments à passer pour ces brebis, mais peut-être aussi pour nous, notre vie. Ici, les brebis, elles effleurent la mort, hein, elles ne meurent pas, elles effleurent tout simplement la mort, puisqu'elles marchent, et elles doivent continuer de marcher. Mais elles vont être entourées de dangers, parce que dans la montagne, il y a des avalanches parfois. Il y a des plantes vénéneuses, on n'y pense pas forcément, mais il y en a beaucoup. Moi, j'étais scout autrefois et on m'a dit « ça, tu manges pas, attention, c'est dangereux ». Il y a des tempêtes, il y a des crues, il y a un tas de dangers, comme dans la vie du chrétien. À moins que vous n'ayez jamais eu de tempête dans votre vie. Je serais content pour vous, mais ça va vous arriver un jour. Je suis désolé de vous le dire. Et cette vallée d'ombre de la mort, pour nous, ben c'est les épreuves de la vie. C'est peut-être la proximité de la mort aussi, parfois, dans la maladie ou d'une manière autre. Ça peut être la dépression, ça peut être les coups de blues spirituels. Il y a un tas de vallées d'ombre de la mort dans notre vie. Ça peut être aussi les tentations, parfois, et ça, c'est nous qui nous mettons dedans, hélas, hein, parce que la chair est là, on l'a lu tout à l'heure, et elle nous conduisent dans des pièges et parfois même des dangers, et on se fait coincer soi-même, bêtement. Hein. C'est des vallées obscures, peut-être, qu'il faut traverser, mais il faut les traverser pour que je puisse rejoindre les pâturages. Hein, et les brebis, elles aiment bien les bons pâturages, mais il faut traverser, des fois, ces vallées d'ombre de la mort pour grandir, tout simplement. Si vous ne voulez pas d'épreuves dans votre vie, si vous ne voulez pas traverser ces vallées, laissez tomber, vous ne grandirez jamais dans votre vie. Votre foi stagnera. Et ce n'est pas bon pour soi, évidemment. Il faut franchir ces vallées, des fois, être éprouvé. Si je ne veux pas les traverser, le Seigneur, le berger, me fera traverser de toute façon, puisque c'est lui qui guide le troupeau. Hein. Mais il faudra accepter, des fois, de passer par ces moments un peu difficiles. C'est bon pour nous, parce que ça nous rend matures. Plus mature spirituellement, plus grand spirituellement. Et les fruits de l'épreuve, ben justement, nous font grandir. Et on voit quand quelqu'un est mûr spirituellement, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie, ça se voit. Hein, et pourrait en témoigner. L'épreuve permet de s'approcher aussi du berger, parce que quand tout va mal, qu'est-ce que vous faites? On s'approche du Seigneur, on crie à Dieu. Hein, généralement, et il faut toujours attendre d'être dans la difficulté pour s'approcher du berger, demander de l'aide, du secours. Mais ça nous démontre aussi sa présence, parce que quand je suis dans l'épreuve et que je demande le secours du Seigneur, le Seigneur généralement démontre aussi sa présence. Donc c'est bien l'épreuve quelque part, c'est bon l'épreuve. Je m'approche du Seigneur, un peu plus que d'habitude, et en même temps, il me dit « je suis présent ». Enfin, il nous le dit aussi quand il n'y a pas d'épreuve, mais on a tendance à l'oublier tout simplement. Donc l'épreuve est bonne quelque part pour nous. Des vallées obscures pour augmenter notre foi dans le berger. Les brebis, elles suivent le berger là où il va, normalement. Il y en a des petites têtues comme on a vu la dernière fois, mais normalement elles suivent le berger. Souvent on parle de notre foi au passé. Là, autrefois, il y a 20 ans, hein, j'avais la foi, j'étais à fond pour le Seigneur. Hein. Mais il y a 20 ans, la foi c'est aujourd'hui, c'est demain. C'est pas toujours de ressasser notre passé, ce que j'ai vécu. Le Seigneur ne veut pas qu'on parle seulement de ces tableaux qu'on a signés avec nos larmes parce qu'on a traversé des épreuves, etc. La foi, ce n'est pas le passé. La foi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je dois grandir. Et donc, il faut que je me projette en avant et pas toujours regarder en arrière. Qui veut grandir dans la foi? Ne répondez pas, surtout. Alors, demandez une vallée obscure. Grandirez pas autrement. On grandit un tout petit peu quand tout va bien, mais on stagne bien souvent. Mais comment savoir que le berger est vraiment à côté de moi? C'est souvent que dans l'épreuve ou dans les difficultés. C'est là où je me rends compte qu'il est vraiment présent, bien qu'il est toujours présent. Et si je veux vraiment grandir dans la foi, il va falloir que j'accepte certaines difficultés aussi. Et c'est pas que les difficultés de l'épreuve, c'est aussi la difficulté de changer. Parce que vous changez facilement? Pas moi, hein. Et j'imagine que vous n'êtes pas plus que moi, donc c'est très difficile de changer. C'est aussi des fois une petite vallée obscure, on pourrait dire, où le Seigneur me montre que je dois changer dans tel ou tel domaine, et je dis non, je ne veux pas. Alors après le « je ne veux pas », on va dire « je ne peux pas ». Mais ça, ce n'est pas des arguments devant le Seigneur. Le Seigneur nous demande de changer, et il va nous donner aussi la capacité de le faire, mais nous sommes des brebis réticentes parfois. Les bons pâturages sont souvent difficiles d'accès. C'est normal, quelque part. Mais la croissance spirituelle, c'est aussi difficile d'accès. C'est pas impossible, comme les pâturages, puisque le berger va les mener vers ces pâturages. Mais ma croissance spirituelle, c'est la même chose. Le Seigneur veut m'emmener vers cette croissance. Mais moi, souvent, je freine le Seigneur, je me freine moi-même, parce que j'ai pas envie de grandir avec Dieu. Et c'est bien dommage parce que au bout, il y a les jolis petits pâturages tout verts. Je sais que vous n'aimez pas manger de l'herbe, ça j'en suis convaincu. Mais vous pouvez imaginer la bénédiction du Seigneur derrière, la paix et la joie que ça symbolise aussi. Grandir dans la foi, c'est traverser justement des vallées obscures pour découvrir que le berger veille tout simplement sur chacun d'entre nous. Pendant cette marche, ce qui est formidable, c'est que le berger ne nous laisse pas tout seul. Et il va veiller sur nous et il va apporter ses petites attentions au fur et à mesure. Je relis dans la traduction littérale. Hein. « Je ne craindrai pas le mauvais parce que tu es avec moi, ton bâton et ton appui, cela, il me réconforte. Tu as arrangé pour mes faces une table en face de mes adversaires. Tu graisses d'huile sur ma tête, ma coupe est en surabondance. » Ça change un petit peu, mais c'est à peu près la même chose. Hein. La houlette et le bâton, c'est généralement ce que possède un berger. Quelque part, pour les brebis, c'est deux marques de réconfort. On voit des fois le bâton comme... C'est plutôt une marque de réconfort. Le mot en hébreu, hein, houlet, ça symbolise souvent les soins ou la patience aussi, quelque part. La houlette rassemble, et guide les brebis. Ça l'aide à aller dans le bon chemin. Pour nous, on pourrait peut-être comparer ça au Saint-Esprit, quelque part dans notre vie. Hein, parce que le Saint-Esprit me convainc de pécher pour me faire entrer dans la bergerie, c'est-à-dire dans le corps de Christ, quand je me convertis. Ensuite, le Saint-Esprit, il nous rassemble aussi, parce que des fois, nous nous éloignons, mais il a besoin des fois d'une petite tapote pour qu'on revienne dans le troupeau. Le Saint-Esprit, il nous guide avec la parole, évidemment, et il nous dirige dans notre vie chrétienne. C'est un peu notre bâton à nous, notre houlette, pardon, à nous. Puis le bâton, c'est à peu près la même chose, mais c'est plutôt un symbole d'autorité dans la Bible, de discipline. C'est celui qui corrige la direction. L'autre dirige, lui corrige la direction. Il servait aussi autrefois, on voit ça dans Ézéchiel par exemple, à compter les brebis. Les brebis passaient devant ce bâton et le berger comptait les brebis. Il est utilisé aussi comme appui pour les vieillards. Ça en connaît un peu mieux. Pour nous, quelque part, ça pourrait être le travail de la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, comme le bâton, et pour instruire dans la justice. » Et je crois qu'on peut s'appuyer tout simplement sur la parole de Dieu. Donc cette houlette et ce bâton sont des marques de réconfort, quelque part. J'aime dire la correction, c'est une marque de réconfort. Oui, on a la chance d'avoir eu des parents qui nous ont corrigés pour qu'on ne fasse pas des bêtises. Jésus fait exactement la même chose avec nous, parce que des fois, on a besoin d'être corrigé, revenir dans la bonne direction. Et il le fait avec sa parole, il le fait au travers du Saint-Esprit. D'être dirigé par la Bible et laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Des fois, il se met à l'écart parce qu'on ne veut pas l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Hein. Mais si on le laisse agir, il va conduire notre vie et faire ce que Dieu veut. Et tout particulièrement dans les vallées obscures. Quand je suis dans l'épreuve, dans la difficulté, j'ai l'assurance qu'il est là, que je suis entouré, que je peux être réconforté par Jésus-Christ. Pas que dans les épreuves de maladie, même s'il m'arrive des fois de chuter, le Seigneur est là et veut me réconforter, tout simplement. Mais elles deviennent des réconforts seulement si nous nous plaçons sous son autorité. C'est ça, le grand problème. On le sait bien souvent, mais il s'agit de dire oui et de laisser faire Dieu dans notre vie aussi. Ça n'a rien d'avoir ces deux marques de réconfort si on ne les laisse pas agir en nous. Et puis, David dit « une table en face de mes adversaires ». Alors souvent, on pense à une table, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait appuyer sur la... Vas-y, appuie encore une fois. Voilà une table. Et dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, dans certaines régions du monde, je vais dire ce que j'avais trouvé, les plus propices à l'élevage du mouton, spécialement dans l'ouest des États-Unis et le sud de l'Europe, les hauts plateaux d'herbage sont appelés « mesa », un mot espagnol qui signifie tout simplement « table ». Il est curieux que le mot, en africain, je vais vous le passer, désignant la table, et aussi le mot « mesa », c'est le même mot. Ceci est dû probablement aux premiers explorateurs portugais, etc. Enfin, voilà. En fait, une table, c'est un plateau, comme vous avez là, à peu près plat, et qui est bien pour, tout simplement, les brebis. D'une autre manière, c'est un endroit ou une prairie qui est agréable, qui est plate, parce que c'est plus simple pour surveiller aussi les brebis, qui est aussi débarrassée de tous les dangers. C'est le berger qui va d'abord et qui va enlever tout ce qui peut être danger. Il va essayer de voir s'il y a des serpents, essayer de voir s'il y a des pierres qui peuvent être dangereuses. En fait, il va préparer cette table pour que les brebis puissent arriver tranquillement, brouter leur herbe, mais sans danger. C'est pour nous un peu aussi le symbole d'une halte paisible, de communion et de paix avec Dieu. C'est bon ces moments hein, où on est bien avec Dieu. On est dans la prière ou dans la parole et on est bien et on est en communion avec Dieu. Et Dieu nous invite tous les jours, même si vous voulez plusieurs fois, à vivre ces tables quelque part, ces moments de paix. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais au moins une fois par jour, ça fait beaucoup de bien. Et les adversaires, puisqu'ils préparent cette table en face de ses adversaires, bah pour la brebis, ce n'est pas des soldats, hein, c'est les buissons, parce que les buissons, ça accroche des fois la toison, hein, et c'est dangereux pour eux. Il y avait des prédateurs, il y avait les loups, hein, il y a des animaux là-haut dans les montagnes, il y a peut-être des plantes vénéneuses. Enfin, tout ça, avant que les brebis arrivent, le berger s'en occupe et essaie de débarrasser au maximum pour que cette table soit le plus plaisant possible pour les brebis. Nous, on a aussi des adversaires, bien souvent tout ce qui nous retient dans notre marche déjà. Et là, il y aurait beaucoup de choses à énumérer. Le diable est aussi là des fois pour nous coincer, mais bien souvent c'est nous qui nous mettons dans les difficultés. Mais le Seigneur veut débarrasser notre vie de toutes ces difficultés, de tous ces adversaires, pour nous faire reposer tranquillement dans l'herbe. Hein. Souvenez, l'herbe en plein été, quand il fait chaud, c'est agréable hein, de coucher dans l'herbe comme ça. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune. Le berger donc prépare ou dresse cette table, justement, et comme j'ai dit, il va arracher les mauvaises plantes, il va surveiller les prédateurs. En fait, il ne veut pas que les brebis soient pris au dépourvu parce que une brebis va se faire manger ou parce qu'elle va brouter quelque chose qu'il ne fallait pas. Il est tranquille, il prépare les choses et les brebis peuvent arriver. C'est exactement la même chose avec Jésus-Christ. Il a tout préparé. Il a préparé une halte paisible qu'on va vivre dans le ciel, qu'on peut déjà vivre aujourd'hui. Il a tout préparé, il a tout débarrassé pour que nous ayons juste à saisir sa grâce et qu'aujourd'hui, nous puissions vivre tranquillement en paix. Alors, les dangers, il les a débarrassés. Le problème, c'est que nous, on aime bien les dangers. Et on aime bien de temps en temps hein, la convoitise, le péché. C'est nous qui allons chercher ces problèmes-là. Mais le Seigneur a débarrassé de tout ça, normalement. Normalement, on peut ne plus pécher. Facile à dire, hein, vous allez me dire. Mais le Seigneur a tout prévu. C'est une halte dont on peut déjà bénéficier, parce que souvent on se dit « ça sera au ciel », c'est pas vrai. On peut bénéficier de la paix de Dieu aujourd'hui sur la terre déjà. On peut pleinement prendre l'amour de Christ pour nous. Et on peut avoir une grande espérance dans l'avenir qui va avoir lieu bientôt. Donc tout ça, quelque part, c'est cette table dans laquelle je peux m'asseoir, brouter l'herbe si vous avez envie, hein, mais où vous êtes au calme tout simplement parce que le berger a tout préparé. Et c'est dommage que des fois nous sommes des brebis qui voyons un bon buisson là-bas hein, et il faut sauter des montagnes et tout, et puis finalement on se retrouve bien loin du berger et peut-être des fois même perdu. Et c'est bien triste. Et puis il parle de oindre d'huile aussi. Il faut savoir que l'huile c'était quelque chose qui apaisait en fait les brebis. Parce que, comme on l'avait dit la semaine dernière, il y a des mouches autour. Hein, vous avez déjà vu, autour des vaches, on le voit souvent, mais aussi des brebis. Donc un berger écrivait hein, « Les moutons sont spécialement tourmentés par les mouches nasales. Ces petits insectes bourdonnent autour de la tête des animaux et déposent leurs œufs dans la muqueuse humide de leurs narines. Ces œufs se transforment en quelques jours en larves minuscules qui se frayeront un chemin au travers du nez vers l'intérieur de la tête de l'animal. Elles creusent littéralement dans la chair, déclenchant une intense irritation et une forte inflammation. Vous imaginez ce que ça peut faire. Mais après, alors pour se débarrasser de cet atroce désagrément, les moutons se heurtent la tête contre les troncs, les rochers, les arbustes. Ils se frottent contre le sol et les branches rugueuses. Au paroxysme de la douleur, un animal peut même se tuer dans son effort de vouloir se soulager de son supplice. Vous imaginez comme ça doit être pénible. À un stade avancé, l'infection provoquée par ces mouches nasales peut aboutir même à la cécité. Donc il dit « Quelle transformation ! Dès que l'huile avait été appliquée, un changement immédiat se remarquait dans le comportement du troupeau. Plus de nervosité, d'irritation, de mouvements désordonnés. Les animaux se nourrissaient paisiblement et pouvaient se reposer pleinement satisfaits. » On peut imaginer la douleur pour ces pauvres bêtes hein, et ces mouches qui embêtaient. On a aussi des mouches hein, quelque part. Bon, elles ne sont pas autour de nous, elles sont plutôt dans le cœur, j'ai envie de dire, parce qu'on a parfois des tracas. On a des déceptions, on a des tentations et ça creuse dans le cœur et ça fait mal des fois. Et c'est pénible et ça nous embête quelque part. Dans la Bible, l'huile est souvent le symbole du Saint-Esprit aussi. Et ce Saint-Esprit est appelé consolateur. Quand j'ai des tracas dans mon cœur, j'ai un consolateur. Quand j'ai péché, j'ai un avocat, puisque c'est le même mot, hein, paraclé. J'ai un consolateur et j'ai un avocat qui me défend, dans lequel je peux demander pardon. C'est quand même extraordinaire, non? Si vous avez des mouches la prochaine fois qui y volent, hein, c'est la saison en ce moment, pensez à ces beaux petites mouches qui embêtaient les brebis et qui nous embêtent aussi, nous, des fois. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous consoler, nous rétablir. Et cette onction d'huile fait déborder ma coupe. Hein. Il faut comprendre aussi ce que ça veut dire dans la tête d'un berger. En Israël, il arrivait fréquemment qu'un ruisseau ou un canal de déviation passât au travers de la bergerie. C'est comme ça qu'il donnait de l'eau. Pendant les saisons de pluie, le ruisseau ou le canal roulait des eaux trop rapides pour que les brebis s'en approchent sans crainte. Car vous étiez déjà dans un torrent, hein, quand il y a énormément de brouhaha, là, c'est pas évident d'approcher. Car les brebis sont sages, elles ont peur instinctivement des torrents qui pourraient dangereusement les entraîner. Elles sont des fois plus sages que nous. Hein. Alors on remplissait une bassine à 2 anses que l'on présentait à la brebis. C'est une bassine que l'on appelait la coupe. Quand l'été était avancé, le ruisseau se trouvait presque à sec. Dans ce cas, on plaçait la coupe sous le filet d'eau pour que la brebis pût boire à une pleine coupe. S'il n'y avait pas de ruisseau, il fallait puiser de l'eau dans une citerne et en offrir une ration, une coupe, à chaque brebis assoiffée. C'est le travail de l'aide du berger, tandis que celui-ci était occupé à examiner et à panser celles-ci, une à une, et elles entraient tout doucement au bercail en passant tout simplement par sa main. Donc on imagine qu'à un moment, le berger prenait cette espèce de bassine avec 2 anses, qui s'appelle la coupe en fait, et qui donnait à chaque brebis à boire. C'est encore là les soins du berger, c'est l'attention du berger. Il pourrait dire, oh, je suis fatigué aujourd'hui, hein. Elles ont qu'à se débrouiller pour boire. Ben non, il allait vers chaque brebis pour leur donner à chacune à boire. Et Jésus fait exactement la même chose pour nous chaque jour. Dans Jean 6, 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Pourquoi ? Parce que chaque jour, il tend cette coupe, et nous pouvons boire l'eau de sa parole, tout simplement, parce que la parole est aussi comparée à l'eau, bien souvent dans la Bible. Et finalement, le chrétien a tous les soins de Dieu, tous les jours, à disposition. C'est génial, il n'a même pas besoin de puiser, hein. C'est juste à disposition, à moi simplement de boire ce que le Seigneur me donne. Ça nous rappelle aussi la coupe, et on en a parlé tout à l'heure, cette coupe à Gethsémané que le Seigneur a acceptée pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas la même coupe, elle est beaucoup plus douloureuse, mais il n'était pas obligé de l'accepter, et pourtant il l'a bu avec beaucoup de douleur, et pour que nous puissions avoir à boire, mais surtout la vie éternelle au bout. Voilà cette coupe qui déborde tout simplement pour ses brebis, et cette coupe, elle déborde pour nous chaque jour. À nous tout simplement d'aller boire. Ça fait du bien de boire l'eau de la parole de Dieu. Vous voyez les attentions du berger, hein, même dans la marche, il est toujours aux petits soins, il protège, il apaise les brebis, il étanche la soif de ses brebis, tout comme le fait notre bon berger Jésus-Christ, à condition évidemment qu'on le laisse faire dans notre vie. Puis une troisième chose, le berger offre les moyens d'arriver à destination. On pourrait se dire des fois, si on se regarde à nous-mêmes en tant que chrétien, je ne sais pas si on irait bien loin sans que le berger nous pousse et nous mène. Je reprends la traduction littérale. « Aussi ce qui est bon et la grâce me poursuivent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée des jours. » Je pense que vous avez déjà vu qu'un berger a des auxiliaires. Hein, vous avez souvent un ou deux chiens qui sont autour du troupeau et qui aide tout simplement le berger. Il talonne parfois les brebis qui sont un peu retardataires pour les faire avancer, mais aussi pour les protéger, parce que si elles tombent toutes seules, le loup, lui, il va en profiter, hein. Surtout quand elles sont faibles aussi, ou les petites, généralement, hein, sont bien derrière. Mais ces chiens courent autour du troupeau et essaient de ramener tout simplement les brebis dans le troupeau. Nous avons nos chiens aussi, j'aime pas le mot, mais bon, c'est un peu l'image qui est là. Parce que Dieu a ses chiens aussi pour nous, qui nous ramènent de temps en temps. Ça peut être la parole, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être un frère, une sœur en Christ. Mais il y a une forme de protection aussi autour de nous, au cas où parfois nous ne voulons pas avancer, au cas où parfois on boude, hein, parce qu'on ne veut pas, ou on est dans le péché, ou je ne sais pas. Mais le Seigneur permet qu'à un moment comme ses chiens, on retourne dans le troupeau et qu'on avance avec le berger tout simplement. Mais des fois, il y a des choses qui nous talonnent. Ce n'est pas forcément Dieu. Il y a nos craintes. Et ça, on les laisse bien nous talonner. Il y a nos infidélités, peut-être. Il y a la chair qui est là. La crainte de l'avenir. Enfin, il y a un tas de choses qui peuvent nous talonner. Mais ça nous met en situation de faiblesse. C'est ça, le problème. On ne devrait pas les laisser nous talonner, mais plutôt nous laisser talonner par les chiens, entre guillemets, de Dieu, pour nous faire retourner dans le troupeau et se souvenir que toutes ces craintes, toutes ces difficultés, ben, le Seigneur peut nous aider à les traverser, tout simplement. Mais ici, les deux auxiliaires accompagnent le chrétien aussi, hein, et ils parlent de le bonheur et la grâce, ou dans l'hébreu, c'est plutôt ce qui est bon et la grâce, nous accompagnent tous les jours. Quand on va partir au boulot le lundi matin, et pas le boulot le dimanche quand même, la bonté et la grâce vous accompagnent. Vous avez déjà remarqué ça dans votre voiture? Ou dans les RER, ou je sais pas, quand vous êtes au boulot, la bonté et la grâce vous accompagnent. Regardez demain, pas autour de vous, dans votre cœur, la promesse que Dieu nous fait à chacun d'entre nous d'avoir ce bonheur et cette grâce qui nous accompagne. Elle devrait nous presser, elle devrait nous faire avancer avec le Seigneur. De Corinthiens 5, 14, Paul disait « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » L'amour de Christ nous presse. Ça nous donne envie d'avancer, pas de râler, de pleurer sur nous-mêmes, de nous lamenter. Ça nous presse d'avancer, de le suivre, de marcher derrière lui, parce qu'en lui, tout est bon. Ce que nous avons, nous, comme plan, des fois, plutôt pas terrible. Et c'est pas toujours bon pour nous. Mais l'amour de Christ nous presse, et si je le suis pleinement, forcément, bonté et grâce vont m'accompagner. Les brebis bien accompagnées offrent aussi de bonnes choses. On appelait les brebis des sabots d'or. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Dans la littérature ancienne, les moutons étaient appelés des animaux aux sabots d'or, tant ils étaient estimés pour leurs bons effets, en fait, sur la terre. Il est utile maintenant que nous nous souvenions que des moutons mal dirigés peuvent être les plus destructeurs des animaux. En très peu de temps, ils peuvent ruiner et ravager une terre presque irrémédiablement. Par contre, ils peuvent convenablement, s'ils sont convenablement dirigés, être le bétail le plus utile. Un berger qui dit ça. Hein. Leur fumier est le plus équilibré qui soit, bien répandu sur la prairie. Il est d'un très grand profit pour le sol. L'habitude du mouton de s'élever le plus haut possible pour se reposer répartit la fertilité des riches prairies inférieures vers les sols les plus pauvres des terres supérieures. Aucun autre animal domestique ne consomme une aussi grande variété d'herbages. Les moutons dévorent des quantités de mauvaises herbes et de plantes nuisibles qui auraient tôt fait d'envahir un champ. Ils raffolent par exemple des bourgeons et des jeunes pousses de chardon canadien, je ne sais pas où c'est ça, qui, si on n'en prend pas garde, peuvent faire beaucoup de tort aux cultures. En quelques années, un troupeau de moutons bien conduit nettoiera et enrichira en fait une terre ravagée comme aucun autre bétail ne pourrait le faire. Je ne sais pas si vous saviez. Finalement, ce troupeau bien dirigé, bien placé, peut faire énormément de bien pour la terre. C'est un peu comme nous. On va s'appeler des chrétiens aux sabots d'or. Regardez vos pieds. On ne va pas les appeler sabots. Hein. Mais notre réputation, normalement, en tant que porteur de la bonne nouvelle, c'est d'avoir ces sabots d'or. De pouvoir avoir des bons effets là où je suis, que ce soit dans mon travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ma famille, j'ai mes sabots d'or. Et normalement, je devrais faire beaucoup de bien. Parce que les gens, on l'avait dit tout à l'heure, voient la joie en nous, voient la consolation que Christ fait en nous, même parfois dans la difficulté. Ils ne comprennent pas les gens, pourquoi tu peux être encore en paix alors que tu es dans la difficulté, dans le deuil, etc. Parce que j'ai les sabots d'or, tout simplement. Et je suis une brebis du Seigneur, et mon témoignage est là, et normalement devrait faire beaucoup de bien autour de moi. Hein ? Vous êtes au travail, souvenez-vous, demain matin, sabot d'or. Je veux qu'on sache que je suis de Jésus-Christ, sans le dire, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, mais qu'on voit quelque chose de différent par rapport aux autres. Hein ? Et c'est dommage qu'on ne voit pas la différence. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, souvent, on compare notre maison au ciel. Hein, on a l'impression que David parle du ciel, mais il est beaucoup plus terre à terre. En tant que berger, lui, il pense au retour, parce qu'il va retourner à la bergerie. Après être passé quelques temps dans les montagnes, on retourne dans la première étape, tout simplement. Et dans sa tête, c'était cette maison où il va pouvoir de nouveau donner les soins à ses brebis. Hein. Donc, on parle plus de la bergerie, où les brebis vont pouvoir reprendre de la force. Et il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». C'est-à-dire que ce cycle de soins dans la bergerie, transhumance, etc., se fera jusqu'à la fin, tout simplement, de mes jours. Mais jusqu'à la fin de mes jours, à un moment, je serai pleinement soigné. À un moment, je devrai marcher avec le Seigneur pleinement soigné. Puis je retournerai tranquillement dans la bergerie après avoir bravé les dangers, les difficultés, les épreuves, mais toujours avec mon berger, et tranquillement avec mon berger. C'est chouette la vie, finalement. Hein, on est tout le temps soigné, choyé par le Seigneur, évidemment, en condition qu'on se laisse faire. Mais ça nous rappelle aussi que notre maison est déjà... Enfin, cette maison, on pourrait dire céleste, mais elle est déjà sur la terre. On est déjà au ciel. Je suis désolé de le dire, même quand il y a des nuages. Hein. Le ciel n'est pas forcément bleu, là-haut. Hein. Mais on est déjà à la maison, normalement, puisque chaque jour, je peux me réfugier dans la bergerie, dans le berger, en Jésus-Christ, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma vie? Oui, je vais pleurer de temps en temps, ça va être difficile, mais j'ai mon berger. Vous imaginez ce monde aujourd'hui qui vit sans le berger? Vous vous souvenez autrefois quand vous deviez traverser les épreuves sans Jésus-Christ? Déjà, on a du mal avec Jésus-Christ, mais alors sans, c'est terrible. Il n'y a aucune espérance, il n'y a aucun but. La vie était vraiment terne. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai mon berger, j'ai cette bergerie. Habiter suggère plusieurs choses aussi, je pense. Parce que je veux bien habiter dans la maison de l'Éternel, souvent, hein, ça on le dit, mais ça suggère, premièrement, que je demeure dans la présence du berger. Autrement, je n'aurai pas les soins du berger. Si le Seigneur me dit d'entrer dans la bergerie et que moi, en tant que brebis, je dis « Non, non, moi, je vais aller me balader », ben, vous n'aurez pas la coupe, vous n'aurez pas à boire, vous n'aurez pas les soins de la part du berger, parce que vous faites ce que vous avez envie, là où vous avez envie. Il faut accepter d'être dans la présence du berger. Ces soins se trouvent à l'Église, se trouvent dans notre culte personnel, dans la communion fraternelle qu'on peut avoir les uns avec les autres, dans le service, dans un tas de choses, finalement. C'est là où on va se soigner, où on va recevoir les soins du Seigneur. Mais ça suggère aussi que c'est la maison de quelqu'un. La bergerie, elle appartient au berger, pas à moi. N'oublions pas ça. Et comme cette bergerie appartient au berger, c'est lui qui est le propriétaire. Et si moi j'entre dans la bergerie, je me souviens que le berger en est le propriétaire. C'est pas moi qui fais ce que j'ai envie dans cette bergerie. C'est la même chose quand on rentre dans le refuge que Dieu nous accorde, et bien nous nous souvenons aussi que nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons. Et il a le droit de faire ce qu'il veut avec nous. On rappelle que nous sommes esclaves, dit la Bible, mais en même temps amis de Christ. Et je dois me souvenir que je ne m'appartiens plus moi-même. Et ça, on l'oublie bien souvent. Et on est ses brebis un peu fofolles. Hein. Mais je suis la propriété du berger. Et c'est bien de s'en souvenir, parce que ça nous permet de rester humbles et en même temps être propriété du berger, de Christ. C'est pas génial. Je préfère être propriété, on va dire, de Christ que du diable, en tout cas. Parce que ça, c'est un mauvais berger, et il va me faire des sacrés tours. Mais être propriété du berger, c'est aussi profiter de tous les soins qu'il va nous apporter. Et habiter dans la maison de l'Éternel, souvent on pense que c'était le temple à l'époque, mais le temple n'était pas encore construit à l'époque de David. Hein. Donc David ne pensait pas au temple à ce moment-là. Simplement, habiter dans l'hébreu, c'est s'asseoir, être assis, habiter, se poser à un moment. Quelque part, c'est arriver à destination, soit dans la bergerie, si on est terre à terre, soit dans le ciel, dans notre patrie, comme nous dit Hébreux. Mais c'est, quand je dis habiter dans la maison de l'Éternel, c'est arriver à un moment où je vais me poser. Peut-être le temps des soins dans la bergerie, pour repartir de plus belle, ou peut-être un jour, ben, on se reposera pour l'éternité avec le Seigneur dans la gloire. Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours, c'est vivre en paix, tout simplement dans la présence du bon berger, et ça commence aujourd'hui, enfin ça commençait hier, ça commençait le jour de notre conversion normalement. Mais tous les jours, je peux habiter, je peux me poser en paix tout simplement parce que mon berger est là, il est présent et il veut m'apporter tous ses soins. Qu'est-ce qu'on a comme chance quand on y réfléchit, non?
Ben,
hein, on a envie de bêler des fois, comme les brebis. Dieu offre bonheur et grâce à ses brebis. La question c'est, est-ce qu'on veut vraiment habiter dans sa maison? Ou est-ce être juste autour de la maison, un peu loin, un peu moins éloigné? Le Seigneur veut simplement qu'on habite, qu'on se pose dans sa bergerie. Pour terminer, notre vie ressemble à ces brebis. Hein. Succession de soins, succession d'épreuves. On doit marcher, c'est pas toujours simple. Il y a des dangers, il y a des difficultés. Il existe de mauvais bergers aussi. On l'avait déjà dit la dernière fois. Satan est là, notre chair. Et nous jette parfois dans les difficultés et va jeter beaucoup de monde dans les ravins, hélas. Mais le bon berger, lui, nous garantit de veiller sur nous, de nous soigner et de nous guider. Et ça, on en a vraiment besoin durant notre vie. Il marche tous les jours avec nous. On l'a vu, il prépare même le terrain. Il connaît votre journée de demain. Il est déjà en train de déblayer la journée de demain. Tout cela pour qu'on puisse un jour arriver sain et sauf. quelle attention le Seigneur a pour chacun d'entre nous. La question, c'est de savoir quel berger est-ce qu'on veut suivre aujourd'hui, hein, parce que des fois, on a des bergers un peu biaisés. Le berger dit que je peux faire ci, je peux faire ça, ou je peux aller dans cette direction, c'est pas forcément le bon berger. Il s'agit pas seulement non plus de vouloir suivre le berger, parce qu'on a toujours la motivation, l'envie, oui, j'en ai, surtout, hein, c'est la nouvelle année qui va commencer, là, on a envie. Il s'agit de le faire. C'est pas la même chose. Les brebis, à l'époque, n'avaient pas seulement la volonté de suivre le berger. Elles suivaient le berger. Elles le faisaient. Parce qu'elles savaient que si elles se retrouvaient seules, à mon avis, elles étaient mal, tout simplement. Le Seigneur nous aide à pas seulement vouloir, mais aussi à agir. Et dans tous les domaines de notre vie, de sanctification, de service, il y a tellement de domaines dans lesquels on doit avancer. Alors, en marche, j'ai envie de dire, vers la bergerie céleste, et accompagné par le meilleur des bergers du monde, qui est tout simplement Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, merci pour ce magnifique psaume qui nous rappelle que tu es le bon berger. On rappelle aussi que nous sommes ces brebis, ces brebis qui suivent normalement le berger, qui ont confiance dans le berger, même s'il y a des vallées difficiles, des épreuves. Tu es là, tu prépares le terrain, tu nous soignes, tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, face aux adversaires, face aux dangers de la vie. Et quelle grâce, quel bonheur, justement, qui nous accompagne aussi chaque jour. Tu sais où nous en sommes aujourd'hui, peut-être dans notre cœur, et parfois nous nous éloignons du bon berger, à petite distance des fois, à grande distance, hélas, parfois, mais heureusement que tu as tes chiens, entre guillemets, qui veillent et qui nous repoussent vers toi, et c'est ton amour, c'est l'expression de ton amour au travers du Saint-Esprit, au travers de la parole, Seigneur. Apprends-nous à rester dans le troupeau, apprends-nous à vouloir te suivre fidèlement pour aller dans ces bons pâturages, ces moments de paix, de joie qui sont tellement agréables dans ta présence, Seigneur. Apprends-nous à vivre dans ta présence au quotidien, Seigneur, pas seulement dans le culte personnel ou à l'église, mais chaque jour dans notre vie quotidienne. Je te prie pour ce monde qui suit le mauvais berger, et tout particulièrement à Noël, et ce moment où personne n'a rien compris au sens de Noël, que ce soit nous, ces chrétiens au sabot d'or, qui puissions briller, annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, et leur montrer qu'il y a un berger beaucoup plus sympathique et bien meilleur que le monde ou le diable, et pourquoi pas témoigner de ce bon berger. En tout cas, merci Seigneur pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Apprends-nous simplement à en profiter. En Jésus-Christ.